Rencontre spirituelle aujourd'hui. Il est question de Saint-Sébastien. Il y a beaucoup de Sébastien au Québec et voilà un modèle extraordinaire à leur donner, à donner à des jeunes aussi. C'était un officier que l'on représente souvent jeune. Hein. Dans son supplice, il a été transpercé de flèches. Un officier romain du 3e siècle, Saint-Sébastien. Il a été dénoncé comme chrétien. Et l'empereur l'a fait transpercer de flèches. Mais il n'en est pas mort, il a subi un autre martyr par la suite. Martyr deux fois. Je me sers pour cette émission d'un vieux récit. Ce qu'on appelle une passion. Je l'ai déjà fait pour quelques saints autrefois, en particulier Sainte Perpétue. Ça avait beaucoup intéressé les gens de voir ce qu'on écrivait il y a 1500 ans et davantage, pour raconter la vie des premiers martyrs. Alors c'est donc le récit de la passion de Saint-Sébastien d'après ce qu'on appelle les actes, que l'on a attribué longtemps à Saint-Ambroise de Milan. Et nous allons entendre, durant l'émission, des chants de l'Église milanaise, en particulier un offertoire, un offertorium. La Passion n'est finalement pas, d'après les bénédictins de Paris, un texte de ce grand et saint docteur dont je vous ai déjà parlé, saint Ambroise de Milan, évêque de Milan. Mais le texte présente un des meilleurs types de composition de ce genre du 5e siècle. Oui, du 5e siècle, donc, il y a plus de 1500 ans. C'est pas n'importe quoi quand on y pense. Il y a deux villes célèbres qui se disputent l'honneur d'avoir vu naître Saint-Sébastien, Narbonne et Milan. Mais on peut facilement trancher la question parce que ce grand saint, Saint-Sébastien, appartient à toutes les deux. Son père était de Narbonne. Et c'est là qu'il est né. Mais il est aussi de Milan, dans le nord de l'Italie, puisque sa mère était milanaise. Et puis, il a été nourri du sein de sa mère et élevé dans cette ville de Milan. Sébastien a reçu une éducation chrétienne, nous dit ce vieux texte. Il n'oublie pas... Dans la profession des armes qu'il embrasse, il devient soldat sous l'empereur Carus et ses successeurs, il n'oublie pas de mettre en pratique les leçons de foi et de vertu apprises dans sa jeunesse. Les empereurs Dioclétien et Maximien l'honorent de leur estime et de leur affection. Parce que Sébastien devient capitaine de la première compagnie de la garde prétorienne, une charge qui ne se donne qu'à de grands seigneurs et à des personnes fort illustres. Quand Dioclétien séjourne à Rome, il prend grand plaisir à s'entretenir familièrement avec son capitaine des gardes, Sébastien, et à l'employer à son service. Faut expliquer peut-être que Dioclétien, qui est arrivé au trône en 284, nous sommes toujours au 3e siècle avec Saint-Sébastien, il a cru devoir partager avec un collègue le pouvoir impérial. Il trouvait ça trop lourd, pour lui seul. Et son choix est tombé sur Maximien, dont je viens de vous mentionner le nom. C'était un soldat plus ou moins étrange, parce qu'il avait peut-être une assez grande valeur militaire, mais c'était un homme grossier, brutal. Maximien était violent, était débauché. Deux ans après sa nomination, le 1er avril 286, en présence d'une foule immense, puis de toutes les légions réunies dans les plaines de Nicomédie, Dioclétien proclame consul César et Auguste. Auguste, guerrier farouche. Et qui, c'est-à-dire Maximien, qui est un guerrier farouche, il le nomme César, puis Auguste avec des titres fantastiques. Il lui jette un manteau de pourpre sur les épaules, puis il l'envoie gouverner l'Occident. Alors Maximien, donc le bras droit de l'empereur Dioclétien, déteste d'instinct la religion de Jésus-Christ. Il part pour Rome, bien décidé à exterminer tous les chrétiens. Dès ce moment, on peut suivre là, à la trace là, tous les pas de ce persécuteur. Ils sont marqués, on peut dire, à travers le monde romain, là, par le sang des fidèles catholiques. Donc Sébastien est chrétien de cœur et d'affection. Il fait pas extérieurement profession de christianisme, non. Il voit plusieurs personnes faibles qui se laissent emporter là, par le torrent de cette persécution que Maximien a suscité, hein, puis il croit qu'il est préférable, pour mieux servir Dieu, de se tenir caché. Pourquoi? Ben pour pouvoir secourir les chrétiens avec plus de facilité jusqu'à ce que vienne le moment de se découvrir et de mourir avec eux. Il est prêt à mourir, mais pas tout de suite parce qu'il veut les aider. Cependant, il s'emploie à visiter ceux qui sont même prisonniers pour Jésus-Christ, pas pour voir à leur nécessité, il cherche à leur donner courage dans les tourments qu'ils éprouvent, puis à soutenir, à retenir ceux qui sont prêts d'être découragés. Il assure ainsi au Christ des âmes que l'ennemi du Christ s'efforce de lui ravir. Parmi les chrétiens à qui Saint Sébastien conserve la vie de la grâce par ses paroles, il y a deux chevaliers romains qui sont nommés Marc et Marcellin. Ce sont des frères jumeaux, des enfants de Tranquillin et de Marcia, qui sont des personnes importantes et qui possèdent de grandes richesses. Alors ces deux jumeaux sont arrêtés et puis ils sont faits prisonniers parce qu'ils ont confessé la foi catholique. Sébastien va les visiter dans la prison et leur représente qu'il ne faut rien craindre, pas même la mort, pour le service de celui qui est la vie éternelle, Jésus l'a dit. Je suis la vie. Alors la sentence de mort est donnée contre eux s'ils ne sacrifient pas aux dieux, les différents dieux, là. Mais comme ce sont des personnes, comme on dit, de bonne famille, de condition, pas, les parents sont riches, puissants, etc., ils ont une bonne éducation, leurs parents, leurs femmes et leurs amis font tellement de pression auprès des juges que l'exécution est reportée pour quelques jours. Ça permet, durant ces jours-là, d'espérer à ces deux frères-là d'obéir au commandement de l'empereur. Et ils commencent à faiblir. Ils ont 30 jours de délai pour se résoudre et pour prendre une décision. Et cependant, on leur assigne pour prison la maison de Nicostrate. C'est le premier secrétaire, lui, de la préfecture de Rome, puis c'est le mari de Sainte Zoé. C'est impossible de s'imaginer toutes les ruses qui sont faites, les artifices que sont employés pour ébranler le courage des deux jumeaux, Marc et Marcellin. Et les autres seigneurs de la cour, avec qui ils ont pris autrefois toutes sortes de plaisirs, de divertissements, leur parlent, puis leur racontent, puis leur remettent devant les yeux les plaisirs, les richesses, les dignités dont ils pouvaient jouir avant d'être prisonniers, sans perdre la vie, pouvaient s'amuser. Puis il y a leurs femmes et leurs enfants qui viennent aussi. On leur dit aussi qu'il ne faut pas affliger quand même la vieillesse de leurs parents par une peine, un chagrin capable de les faire mourir, quoi. Alors leur mère, Marcia, leur représente les douleurs qu'elle a souffertes en les mettant tous deux au monde, la peine qu'elle a eue à les nourrir et à les élever, les soins qu'elle a pris pour les marier avantageusement. Elle se plaint qu'en récompense de tant de bien, ils veulent faire devenir martyr et la faire mourir, quoi. car il lui sera difficile de survivre si elle les voit se faire exécuter. Leur père, Tranquillin, qui est chargé d'années, qui est devenu vieux, il est affligé des douleurs de la goutte, lui. Il s'efforce de les émouvoir, non par des paroles, mais par ses larmes et des sanglots. Il les embrasse comme des enfants bien-aimés, avec tous les transports de l'amour paternel, nous rapporte le vieux texte de 1500 ans. Et à ces assauts succèdent leurs femmes et leurs petits-enfants. Saint-Sébastien, qui voit le péril où se trouvent les deux soldats, Marc et Marcellien, deux soldats de Jésus-Christ, attaqués de tous côtés, il croit qu'ils ont besoin de secours et qu'il est temps de paraître et de parler pour empêcher que le père du mensonge, le démon, ne demeure vainqueur à la honte et à la confusion de tous les chrétiens sincères. Alors il se tourne donc vers les deux prisonniers puis il leur tient un grand discours. Voici le discours qui date de 1500 ans. Ô braves soldats du roi des rois Jésus-Christ, tenez bon en ce combat et ne vous laissez pas vaincre par vos ennemis, quoique vous les voyez en si grand nombre. Que les femmes soient gagnées par les larmes, que les lâches soient vaincus par l'appréhension de la mort, mais que cela ne fasse pas d'impression sur vous et que votre cœur ne soit pas ébranlé par les pleurs de vos parents, non plus que par les cris et les plaintes de vos enfants. Celui qui est résolu d'obéir à Dieu ne peut recevoir de mal qu'en apparence de ceux qui attendent à sa vie, et quiconque aspire à la gloire et à la félicité éternelle méprise l'honneur de la terre. Faites voir à tous vos parents, à vos alliés, à vos amis qui sont ici, que le véritable soldat de Jésus-Christ résiste aisément avec le bouclier de la foi vive et le feu de la charité aux lâches attaques du plaisir, aux rudes coups du tourment et à l'horreur épouvantable de la mort, quand ils le veulent détourner de l'amour qu'il doit avoir pour la croix et pour celui qui l'a choisi en faveur de notre rédemption. Vous êtes réduits au point ou de perdre tous ceux qui sont ici, ou de vous perdre vous-même en perdant Jésus-Christ. N'est-ce pas lui qui vous a fait confesser son nom jusqu'à présent? N'est-ce pas pour l'amour de lui et avec le secours de sa grâce que vous êtes resté si longtemps en prison et que vous avez enduré tant de tourments et tant de peines? Quoi, ne saviez-vous pas que votre mort devait adresser vos parents, vos femmes et vos enfants, et néanmoins, vous avez passé par-dessus tout cela pour la gloire éternelle? Alors serait-il possible que les larmes puissent vaincre à cette heure ce qui a été jusqu'ici invincible aux tourments et aux douleurs, pour donner sujet aux païens de se moquer de votre constance, qu'ils appellent obstination, en vous voyant si lâchement vaincu et perverti? Non, non, l'amour des vôtres n'aura pas le pouvoir de vous faire perdre ce que vous avez gagné au prix de votre liberté, de votre sang. Puis, se tournant vers les assistants, il leur dit, « Ne permettez pas que pour une vie si faible et si trompeuse, ces chevaliers perdent le ciel. Ne vous opposez pas à l'Esprit de Dieu qui leur fait mépriser la vanité, mais ne vous affligez pas de ce qu'ils se séparent de vous, puisque c'est pour vous frayer le chemin et vous faire connaître et aimer la vérité par laquelle vous leur serez unis éternellement dans le paradis promis aux chrétiens et où se découvre la source inépuisable de la vie toujours heureuse. Alors c'est pourquoi, essuyez donc vos larmes et accompagnez joyeusement le triomphe de ces deux saints martyrs par le mérite desquels vous serez peut-être quelques jours éclairés. » Or, revenons donc à notre Saint-Sébastien qui vient de faire un discours extraordinaire à deux soldats qui risquent de faiblir et à toute leur parenté pour les encourager à être fidèles au Christ. Lui qui est fidèle serviteur de Jésus-Christ, Saint-Sébastien, parle de la sorte. Et pendant qu'il parle, il y a, dit-on dans le vieux texte de 1500 ans, dans cette vieille passion, comme on appelle ça, on raconte qu'il y a une brillante lumière qui descend dans la prison et qui remplit de joie et d'admiration tous les assistants. Et au milieu de cette clarté, notre Seigneur apparaît avec sept anges qui le suivent et lui rendent hommage. Et Jésus, le Sauveur, s'approchant de Sébastien, lui donne le baiser de paix et lui dit « Tu seras toujours avec moi. » Tout cela arrive en la maison de Nicostrate, où les deux frères prisonniers ont été conduits. Et sa femme, je vous le rappelle, c'est sainte Zoé, devenue muette à cause d'une grande maladie qui a duré 6 ans, entend fort bien tout ce que saint Sébastien disait. Et depuis, elle voit les anges et la lumière descendus pour entourer saint Sébastien, soldat du Christ. Ce qui cause qu'elle se prosterne à ses pieds. Elle voit. Et elle lui fait connaître, par signe, et le mieux qu'elle peut, puisqu'elle ne peut pas parler, qu'elle veut être chrétienne, et qu'elle lui demande le baptême. Alors saint Sébastien, qui voit que Zoé ne pouvait parler depuis sa maladie, lui dit, « Si je suis serviteur de Jésus-Christ, si tout ce que je dis est véritable, bien que le Seigneur, ce même Seigneur Jésus-Christ, vous guérisse, qu'il délie votre langue, il vous rende la parole. » Et disant cela, il fait le signe de la croix sur la bouche de la muette, qui au même temps commence à parler, à louer notre Seigneur, à remercier saint Sébastien de la grâce qu'elle a reçue. Par un miracle si évident, Nicostrate est converti à la foi de Jésus-Christ, son mari. Il se jette aux pieds de ses bienheureux frères, les suppliant de se vouloir retirer chacun dans leur maison. Il ne veut plus les garder prisonniers. Puis de lui pardonner s'il les a retenus si longtemps dans sa maison, parce qu'il était aveugle, il ne voyait pas la vraie foi, il ne connaissait pas la vérité. Alors il les assure que, pour lui, il s'estimerait fort heureux d'être pris, puis tourmenté et mis à mort pour leur avoir rendu la liberté. Alors, Tranquillin et Marcia, avec les femmes, les enfants de Marc et Marcelien, les deux futurs martyrs, touchés de ce qu'ils ont entendu et vu, changent aussi d'avis. Ils embrassent la religion chrétienne. Ils fondent tous en larmes. Et la très heureuse fin de ce spectacle, c'est que Nicostrate et Zoé demandent le baptême. Sébastien leur enjoint d'amener premièrement dans la chambre tous les autres prisonniers qui sont détenus pour des crimes, afin qu'ils entendent la parole de Dieu et que ceux qui la recevront participent au mystère sacré eux aussi. Claude, qui est greffier criminel, ayant congédié les ministres de la justice, amène donc les prisonniers et Nicostrate les présente tous enchaînés à Saint-Sébastien, qui leur propose des raisonnements si forts et des preuves si convaincantes que Dieu ouvre leur cœur par les lumières de son Esprit-Saint. Et la vérité y entre dans leur cœur. Ils connaissent les erreurs de leur vie passée et l'aveuglement de l'idolâtrie. Ils se convertissent à la foi de Jésus-Christ, puis ils demandent pardon de leurs fautes. Il y en a 64 qui sont ainsi chrétiens à la parole de Sébastien, à savoir, tout d'abord, évidemment, Tranquillin, le père, sa femme, la future sainte Zoé, ses brus, ses petits-enfants et leurs amis. Pardon, puis il y a Nicostrate, c'est sa femme qui est sainte Zoé, et sa famille, qui est composée de 33 personnes. Puis il y a 16 malfaiteurs et mécréants qui ont été amenés de la prison. Ils se convertissent aussi. Et Polycarpe, qui est un prêtre de Jésus-Christ, les baptise tous après avoir jeûné ce jour-là jusqu'à la nuit, et offert à notre Seigneur un sacrifice de raison et de louange. Et Sébastien et devient le père spirituel, puis le parrain de tous ces nouveaux fidèles. Et parmi ceux qui sont baptisés, il y a quelques malades qui sont guéris par la vertu du Saint-Baptême. Entre autres, Tranquillin, qui, depuis 11 ans, était tourmenté de la goutte, comme vous savez. Et 2 enfants du greffier Claude, qui se sont aussi convertis et dont l'un était hydropique et l'autre couvert de pustules. Alors grande est la joie de Saint-Sébastien, puis des deux frères, Marc et Marcelien, qui ressentent, évidemment, beaucoup de joie à ce grand succès. Et on peut se faire une idée, si on connaît les douceurs que Dieu communique, et jusqu'où peut aller le contentement de ceux qui se convertissent et qui adhèrent à Jésus-Christ. C'est ce que dit le vieux texte il y a 1500 ans. Alors là, ils s'encouragent les uns les autres à la foi, à croire, et au service de Jésus-Christ. Ils attendent que le délai des 30 jours accordé par le juge pour l'exécution de la sentence contre les deux frères soit expiré. Ils emploient tout ce temps à prier, à chanter des hymnes et des psaumes, ils demandent à notre Seigneur de leur donner de la force dans les tourments et de rendre tous les autres dignes du martyr. Ils brûlent tous de ce qu'on appelle les saintes flammes de l'amour de Jésus-Christ. C'est dans ce vieux texte. Les femmes même, dont le naturel semble excuser la faiblesse, font paraître une résolution solide. Et les enfants, eux, ils surmontent toute leur peur par la force de l'Esprit de Dieu. Et les 30 jours expirés, là, le préfet de la ville, qui s'appelle Chromas, envoie appeler Tranquillin et lui dit, « Eh bien, qu'ont résolu vos enfants? Leur avez-vous persuadé de sacrifier à nos dieux et d'obéir aux empereurs? » Alors Tranquillin répond, « Mes enfants sont bien heureux et moi aussi, depuis que Dieu nous a fait connaître la vérité de la religion chrétienne. » Chromas lui dit, « Tu as donc aussi perdu le sens et tu radotes sur la fin de tes jours? » Alors Tranquillin lui répond, « Celui-là est fou qui laisse le chemin de la vie et suit celui de la mort. Oui, celui-là est fou qui laisse le chemin de la vie et suit celui de la mort. » Alors, Chromas, le préfet, lui pose la question, « Quelle vie? Quelle mort? » Et Tranquillin répond, « Si vous me voulez écouter avec attention, vous serez bien heureux en votre âme et aussi tous ceux de votre maison. » Le préfet lui dit, « Oui, je t'écouterai fort à loisir, mais garde-toi bien de rien dire que tu ne puisses prouver. » Alors, ils discutent tous les deux longtemps ensemble, Tranquillin expose au préfet Chromas les mystères de notre sainte foi catholique, et satisfait entièrement aux doutes qu'il lui propose, de sorte que, par la grâce de Dieu, il le dispose à se convertir. Et depuis là, Saint Sébastien et Saint Polycarpe achèvent ce que Tranquillin a commencé. La conversion du préfet Chromas, délivré comme Tranquillin des douleurs de la goutte, est suivie de celle de toute sa famille, où il y a 1400 esclaves auxquels il donne la liberté, disant que ceux qui ont Dieu pour père ne peuvent pas être esclaves des hommes. J'utilise un vieux texte qui date de 1500 ans, du 5e siècle, qui raconte le martyr de ce saint très populaire, qui a été transpercé de flèches, et qu'on a pu voir dans l'iconographie. Vous connaissez ces tableaux, ces sculptures peut-être. Il y a celle du Bernini, dans la basilique des catacombes de Saint-Sébastien, justement sur la voie Appienne à Rome. Très belle statue. Il y a celle de Benedetto di Maiano pour l'église de la Miséricorde à Florence. Et puis à Gênes, il y en a une aussi, faite par un Français, Pierre Puget, pour l'église Sainte-Marie de Carignan. Mais il y a les peintres aussi, des grands peintres, comme Antonello de Messine, on retrouve ça au musée de Dresde. Puis le fameux Memling à Bruxelles, a fait une œuvre magnifique. Mantegna au Louvre aussi, puis, oh mon Dieu, il y a... Au Vatican, il y a le Titien aussi qui a fait un tableau fantastique. Et puis on a même des tableaux de Saint-Sébastien qui va être, je vous le raconterai dans quelques instants, secouru par Saint-Irène. Il y en a un au musée de Tours, qui est au cœur peut-être de nos origines à beaucoup d'entre nous. C'est un tableau de Eustache le Sueur, puis il y en a même un d'Eugène de la Croix, il y en a fait. Oui, de Saint-Sébastien secouru par Saint-Irène. Donc, revenons à notre histoire de Saint-Sébastien. Il a converti beaucoup de monde dans une prison privée. Et puis, la persécution augmente de jour en jour tellement que les chrétiens ne peuvent plus ni vendre, ni acheter, ni trouver à manger, à moins d'encenser auparavant les statues des dieux qui sont dressées, la parole de l'empereur, dans tous les marchés, sur toutes les places publiques. La maison de Chromas, le préfet, est devenue comme un temple. Le pape Saint Caius y célèbre la Sainte Eucharistie. Et il distribue aux nouveaux chrétiens, aux néophytes, le corps de Jésus-Christ. Et il leur adresse la parole, que l'on considère un peu comme le pain de la parole évangélique. Pour éviter une persécution ouverte, le préfet Chromas, nouveau catholique, que sa qualité de sénateur retient à Rome, sollicite et obtient de l'empereur, sous prétexte de rétablir sa santé chancelante, la permission de se retirer dans ses terres de campagne. Le jour de la séparation étant arrivé, le pape Caius vient encore une fois offrir le Saint-Sacrifice dans cette maison bénie. Prenant ensuite la parole, il dit aux fidèles, c'est le pape qui parle, « Notre Seigneur Jésus-Christ, connaissant la fragilité humaine, a établi 2 degrés parmi ceux qui croient en lui. Il y a les confesseurs, ceux qui confessent leur foi, qui l'affirment, puis il y a les martyrs qui meurent. Ceux qui ne se sentiraient pas assez forts pour supporter le poids de la persécution sont libres de se retirer. Un bon pape, il est compréhensif. Tout en laissant la principale gloire aux soldats du Christ, ils pourront du moins les assister dans leur combat. Que ceux donc qui le désirent suivent dans leur retraite Chromas et son fils Tiburce. Que ceux qui en ont le courage demeurent avec moi dans la ville de Rome. La distance ne saurait séparer des cœurs unis par la grâce de Jésus-Christ. Si nos yeux ne peuvent plus vous voir, vous serez sans cesse présent au regard intérieur de notre âme. » Alors, le fils du préfet Chromas, Tiburce, s'écrie en entendant ces paroles, « Je vous en conjure, ô Père et évêque des évêques, hein, » c'est comme ça qu'il appelle le pape, « évêque des évêques, » ne m'ordonnez pas de fuir la persécution, tout mon désir est de donner ma vie pour mon Dieu. Puissais-je en avoir 1000 à lui offrir. » Alors le pape, qui est Saint Caius, se rend en pleurant aux instances de ce jeune homme au caractère très noble, et l'assemblée se sépare. Les uns suivent le préfet Chromas en campagne, les autres restent avec le pape, exposés comme des agneaux à la fureur des loups. Parmi ses victimes se trouve l'invincible Saint Sébastien, dont c'est la fête aujourd'hui. Honoré par le successeur de Pierre, donc, du glorieux titre de défenseur de la foi. Qui a reçu aussi ce titre de défenseur de la foi? Il y en a qui ne le savent pas, mais c'est Henri VIII, quand il a défendu le pape contre Luther, avant lui-même de s'attaquer au pape et de se séparer de l'Église. Défenseur fidèle. On voyait ça sur la monnaie autrefois, même ici au Canada. Défenseur fidei, c'est le titre des rois et des reines d'Angleterre, qu'ils tiennent de la foi catholique et non pas anglicane. Un autre officier de la cour, Castulus, intendant des bains publics, là, les reçoit dans le palais même de l'empereur, où le pape Caius se tient plus en sûreté que dans la catacombe. L'épouse de Nicostrate, la sainte et pieuse Zoé, qui allait prier au tombeau de Saint-Pierre et Saint-Paul le jour de leur fête et traîner devant le magistrat. Parce que c'était là qu'étaient ensevelis Saint-Pierre et Saint-Paul à ce moment-là. Alors, le magistrat, n'ayant plus la contrainte de sacrifier aux idoles, la fait pendre à un arbre par les cheveux et ordonne d'allumer à ses pieds un feu de fumier qui l'étouffe. On lui suspend ensuite au cou une pierre énorme et on la jette dans le Tibre. De peur, disent les bourreaux, que les chrétiens n'en fassent une déesse. Et c'est comme ça que sainte Zoé est morte. Nicostrate, Tranquillin, Claude, le greffier, là, Castor, Victorin et Symphorien sont aussi arrêtés. Le préfet Fabien les fait tous jeter dans le Tibre. Marc et Marcelin subissent la sentence rendue contre eux précédemment. Ils sont cloués par les pieds à un poteau. Ils sont percés à coups de lance. Leurs corps sont enterrés dans une arénaire à 2 000 de Rome. Et Tiburce, le généreux fils de Cromas, est pris par la perfidie d'un faux frère qui paie la police impériale pour jouer le rôle d'espion dans les assemblées des chrétiens. « Quoi ?» dit Tiburce au magistrat. « Parce que je refuse d'invoquer une prostituée dans la personne de votre déesse Vénus, d'adorer l'incestueux dieu Jupiter, un fourbe comme votre Mercure et Saturne, ce meurtrier de ses enfants. Eh bien, je déshonorerai ma race, et je suis un infâme. » Alors le héros de la foi qui est Tiburce a la tête tranchée. Castulus, l'hôte des chrétiens, lui, victime de la même trahison que Tiburce, subit la question et est enfin jeté tout vivant dans une fosse qu'on remplit de sable. Saint Sébastien, sous l'uniforme de capitaine des gardes prétoriennes, n'a pas cessé de visiter les martyrs, de les encourager dans leurs tourments puis de recueillir leurs restes après leur mort. Maximien Hercule, qui a ordonné tous ces supplices, vient de passer dans les Gaules, nord, pour y combattre une insurrection formidable des Bagaudes. Et en son absence, Saint Sébastien est dénoncé à Dioclétien lui-même, durant un voyage, que ce prince-là, à Rome. Le capitaine des gardes paraît donc devant l'empereur, Saint Sébastien, qui lui reproche de payer d'ingratitude ses propres bienfaits et d'attirer le courroux des dieux contre sa personne et son empire. Saint Sébastien répond, « Seigneur, j'ai toujours été fidèle à mes devoirs et je n'ai cessé de prier pour votre salut et la prospérité de votre règne. Le vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre, sachant que c'est une grande folie d'adorer des dieux de pierre, de bois, d'argent ou d'or. » Dioclétien est irrité de ce langage. Fait venir une compagnie d'archers de Mauritanie qui servent parmi ses gardes. On dépouille Saint Sébastien de ses vêtements et les archers qui le percent de leurs flèches. Pour ne pas offenser l'esprit des soldats dont Sébastien s'est concilié l'amitié par son caractère vraiment noble et par sa vertu, comme aussi pour excuser en partie sa cruauté auprès du peuple, Dioclétien fait suspendre au cou du martyr Sébastien un écriteau, où il est dit qu'il souffre ce tourment parce qu'il est chrétien. Sébastien est laissé pour mort à son poteau. Irène, dont je vous ai parlé tout à l'heure, veuve du saint martyr Castulus, vient la nuit pour l'ensevelir. Elle le trouve encore vivant. Elle le transporte secrètement chez elle, au palais même de l'empereur où elle habite. Et quelques jours après, Sébastien se trouve donc parfaitement guéri de ses plaies. Les chrétiens, l'ayant appris, viennent le voir et le supplient avec larmes de se retirer de peur qu'il ne tombe encore entre les mains de ce tyran cruel qu'est Dioclétien. Mais ce saint extraordinairement généreux qu'est Sébastien, qui se considère, lui, un officier comme le soldat de Jésus-Christ, et qui brûle du désir du martyr, sait que l'empereur doit aller au temple. Il se met donc sur l'escalier d'honneur avec les autres courtisans, rangés sur son passage, et puis là, il s'adresse à l'empereur Dioclétien, puis lui dit d'une voix grave et sévère, les pontifes de vos temples vous abusent, ô empereur. Ils inventent plusieurs choses contre les chrétiens, disant qu'ils sont ennemis de votre empire. Ce sont les chrétiens, au contraire, qui le maintiennent par leurs prières, qu'ils font pour sa conservation. Alors Dioclétien est extrêmement effrayé d'entendre ces paroles d'un homme qu'il croyait mort, transpercé de flèches. Il demeure quelque temps comme interdit. Mais Dioclétien revient à lui et lui dit, « Es-tu, Sébastien, celui que j'ai commandé que l'on mette à mort ? Quoi ? N'as-tu pas été tué ? Comment es-tu donc encore vivant ?» Et Saint-Sébastien lui répond, « Parce que mon Seigneur Jésus-Christ a voulu conserver ma vie, pour donner à tout le peuple un témoignage de la vérité de sa foi et de votre cruauté. Vous qui persécutez sans sujet les saints, ceux qui sont justes et sans crime, ne continuez donc pas à marcher dans cette voie. Si vous voulez vivre en paix et assurer à votre empire des jours longs et prospères, ne répandez plus de sang, le sang des innocents. Dioclétien est furieux. Il fait conduire immédiatement le martyr Saint-Sébastien dans l'hippodrome, où on l'assomme à coups de bâton. Après sa mort, les bourreaux le jettent durant la nuit dans un cloaque, où l'on porte toutes les ordures de la ville. C'est en plein cœur de Rome aujourd'hui, ça. C'est près de l'église où la Vierge est apparue au siècle dernier à Alphonse Ratisbonne, un juif, qui s'est converti et qui connaissait tout le catholicisme instantanément. Il a été examiné au Vatican, sur le champ. Il est devenu prêtre et a fondé la congrégation des Pères de Sion, qu'on a déjà eue à Montréal, et les Sœurs de Sion. Alors donc, on craint que les chrétiens, sachant l'endroit où Saint-Sébastien a été jeté, ne lui rendent les honneurs dus à son mérite et que par le moyen des miracles qu'il pourrait faire, les infidèles ne se convertissent à la foi de Jésus-Christ. On le fait donc disparaître dans les ordures de la ville. Mais Jésus, qui est un bon maître, dit le texte très ancien, qui a 1500 ans, qui veut qu'on honore ceux qui le glorifient et qui meurent pour lui, en dispose autrement, car il permet que Saint Sébastien, lui-même, apparaisse à une sainte dame appelée Lucine ou Irène, qui lui révèle où est son corps et comment il est demeuré attaché et suspendu à un crochet, sans tomber dans ce lieu infect où on l'a jeté. Et il lui commande de l'enterrer aux catacombes, à l'entrée du souterrain, au pied des apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul. Et cette femme, Lucine, accomplit tout ce qui lui a été commandé. Et elle est 30 jours en prière continuelle à l'endroit où elle a enseveli le corps de Saint-Sébastien. Elle fait une église de sa maison et laisse tous ses biens qui sont considérables pour le service divin, pour la subsistance des pauvres. Voilà donc la vie et la mort de ce bienheureux Saint-Sébastien. Et le vieux texte nous dit que nous pouvons dire deux fois martyr, puisqu'il a subi deux fois des supplices capables de lui ôter la vie. Alors on vient d'entendre le récit du martyr de Saint-Sébastien tel qu'écrit il y a 1500 ans. On ajoute qu'il est extrêmement vénéré, Saint-Sébastien, de tous les peuples, à cause des bienfaits, dit-on, que les peuples reçoivent continuellement par son intercession, principalement en temps de peste, où il se montre favorable à ceux qui se recommandent à lui, mais qui intercèdent auprès de Dieu, et à tous ceux qui implorent son assistance pour implorer le Christ. Cette dévotion se propage dans presque toute l'Europe au commencement du 7e siècle et à la fin du 7e siècle, en 680, Rome est infectée de la peste. Alors on dresse un autel à Saint-Sébastien par le désir d'être libéré de la peste et aussitôt la peste cesse. Et puis, depuis ce temps-là, il y a beaucoup de villes qui l'ont invoqué lors de d'événements similaires comme Milan en 1575, Lisbonne en 1599, et puis pendant les 14e, 15e, 16e et 17e siècles, il y a eu beaucoup d'épidémies, et c'est ainsi qu'on voit aussi la même dévotion à Nevers, où est enterré depuis le siècle dernier Sainte Bernadette Soubirous, à Autun, à Mâcon, etc. Beaucoup de villages aussi ont éprouvé la même assistance de Saint-Sébastien, et le même bienfait dans des occasions semblables, dit-on. C'est aussi une chose fort ancienne, dans l'Église catholique d'implorer le secours de Saint Sébastien, de Saint Maurice, un autre soldat, et de Saint Georges contre les ennemis de la religion. Alors, le martyre de Saint Sébastien a eu lieu le 20 janvier de l'an 288. Vous voyez que ça fait très longtemps, 1700 ans. Oui, 1710 ans. L'Église célèbre sa fête le même jour que le jour de son martyre. Et savez-vous qu'il était si populaire qu'autrefois c'était une fête chômée. Tout le peuple catholique, dans de nombreux diocèses, arrêtait de cesser de travailler. Le lieu où est enseveli Saint-Sébastien, vous l'avez peut-être déjà visité si vous êtes allé à Rome, c'est voisin de la catacombe de Saint-Calixte. Et ça porte le nom de cimetière de Saint-Sébastien. Sur son tombeau, on a élevé une belle basilique. Il y a une magnifique statue en marbre blanc du saint qui décore le tombeau. C'est une statue du Bernin. Et Saint-Sébastien est le patron de nombreuses professions, dont en particulier, évidemment, les archers, ceux qui font pratique le tir à l'arc, et puis qui est très populaire, même aux Jeux olympiques. On l'invoque non seulement contre la peste en général, mais on l'invoque aussi, ça peut intéresser nos gens à la campagne, contre la peste bovine. On représente souvent Saint-Sébastien percé de flèches, jeune, nu, attaché à un tronc d'arbre. On voit quelquefois au-dessus de sa tête un ange qui tient une couronne. On trouve aussi dans certains tableaux le saint en costume militaire qui tient deux flèches d'une main puis de l'autre une couronne. Hein? Les flèches qui l'ont percé et la couronne qu'il s'est méritée. Le cimetière où ont été déposées les reliques de Saint Sébastien, qui était anciennement celui de Saint Calix, porte depuis longtemps le nom de catacombe de Saint-Sébastien. Il y a une église qui a été bâtie par le pape Damas il y a très longtemps à l'entrée de ces catacombes et que l'on a eu soin de réparer de temps en temps. C'est une de celles que l'on visite à Rome par dévotion. Le tombeau Saint-Sébastien en marbre blanc placé dans une des chapelles latérales est très beau. Sa statue, là, sur le tombeau, le représente couché, percé de flèches. Celle-là, c'est l'œuvre de Giorgetto. C'est un des meilleurs élèves de Bernini, disent certains spécialistes, plutôt qu'une statue de vraiment du Bernin. L'église de Saint-Sébastien, qui est très très ancienne, c'est l'une des sept les plus illustres de Rome et du monde chrétien. Elle était bâtie sur le lieu même où le saint a accompli son martyre, près du cimetière de Saint-Calixte. Un monument précieux du Saint-Martyr, c'est son image. Vénérable, représenté en mosaïque, se voit parfaitement conservé dans le titre de Saint-Eudoxie, Rome, Saint-Pierre-aux-Liens. Et c'est un vieillard, là, sur cette image, avec une longue barbe blanche. Alors, avis au peintre qui le représente à tort sous les traits d'un jeune homme attaché à un poteau, disent certains observateurs. C'est aujourd'hui aussi la fête de Saint-Fabien. Fabien, qui était un Romain, enfin un Italien d'origine, quelques auteurs ont prétendu qu'il avait été prêtre de Rome sous le pape Poncien. De toute façon, Fabien était un laïc, revenait de la campagne un jour avec quelques amis. Puis, il est arrivé un événement absolument phénoménal. Il a été élu pape, lui un laïc. C'est que les simples fidèles, puis les membres du clergé, étaient réunis dans une église pour nommer un successeur au pape en terre. Et personne ne songeait à Fabien, un laïc, qui venait de se joindre à l'assemblée. Puis il y a une colombe qui est venue se poser sur sa tête, puis à ce spectacle, tout le monde a été ému, puis dans un transport d'allégresse, se sont écriés d'une voix unanime, « Il est digne, il est digne ». C'était, par une inspiration divine, le désigner comme l'élu de Dieu. Fabien résistait. On l'a entouré, puis on l'a fait asseoir sur le trône pontifical, imaginez-lui un laïc. Et on a retrouvé dans le bas-relief d'une catacombe de la Voie Appienne une reproduction de cette scène. Fabien est donc le premier pape élu alors qu'il était simple laïc. Il a justifié, évidemment, il était ordonné prêtre et évêque. Il a justifié par toute sa vie ce choix miraculeux. On est fondé à croire, disent les bénédictins, qu'il a contribué à l'agrandissement de Rome et à l'affermissement de la ville de Rome. Il a distribué d'abord la ville de Rome en 7 régions ecclésiastiques, confié à 7 diacres régionaux pour que ça fonctionne mieux. Il s'est occupé également de faire exécuter des travaux dans les cimetières nord-temans, notamment le cimetière de Saint-Calixte à côté du cimetière de Saint-Sébastien. Il a fait rapporter de Sardaigne le corps de Saint-Poncien, le pape, qui avait été martyrisé là-bas, et le fait inhumer dans ce cimetière. Les 14 années de son pontificat sous les empereurs divers, le Maximin, Maxime et Balbin, Gordien, Philippe, etc., ont été relativement paisibles. Fabien a pu s'occuper même des églises en dehors de Rome. Il a censuré puis il a déposé un dénommé Privat, évêque de Lambèse en Afrique, pour crime d'hérésie et de vie scandaleuse. Il y a des accusations qui ont été portées contre la doctrine d'Origène. Et Origène, dont je vous ai déjà parlé, a écrit au pape Fabien pour le rassurer au sujet de son orthodoxie. On n'a pas tout à fait toute la correspondance, mais on sait qu'il a été préservé. Le pape Fabien peut être considéré comme l'apôtre des Gaules, le pays de nos ancêtres, beaucoup d'entre nous, parce que c'est lui qui l'a envoyé sept célèbres évêques en France, ou en Gaule, comme Saturnin de Toulouse, Trophime d'Arles, Gatien de Tours, etc. Saint Fabien, l'une des premières victimes de la persécution de Dèce, comme l'atteste la 9e lettre de Saint Cyprien, écrite quelques semaines après le martyre de Fabien. Il y a une épitaphe qui a été retrouvée dans les catacombes au même endroit que celle du pape en terre. Mais les documents liturgiques du 4e siècle affirment que le corps de Fabien a été inhumé dans le cimetière de Saint-Calixte, puis le clergé romain en a informé les autres églises, comme l'atteste encore une lettre de Saint-Cyprien. C'est donc la fête du premier pape laïque, Saint-Fabien, devenu évidemment, je le répète, prêtre et évêque de Rome, et qui est mort martyr comme Saint-Sébastien, dont c'est aussi la fête aujourd'hui. Nous pourrions peut-être terminer en lisant cette petite oraison que l'on adresse après la communion aujourd'hui lors de la fête de Saint-Sébastien. Seigneur, accorde-nous l'esprit de force pour qu'à l'exemple de Saint-Sébastien, ton martyr, nous préférions t'obéir à toi plutôt qu'aux hommes. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.